Juste un mot d'abord pour remercier Monsieur Bolognini. J'ai beaucoup admiré votre local de réserve et par rapport au nôtre, nous on est encore plus encombrés. Et j'avais des... Baisse-moi un peu le voile. Oui, j'avais hier des lycéens à Connit à qui je présentais les choses et maintenant j'ai pris l'habitude de leur dire vous n'êtes pas dans un musée, vous êtes dans les caves du musée. Alors les caves font 900 mètres carrés, mais c'est plein comme un œuf. Je crois que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble avec le musée Bolo. Alors, que je lance cette affaire. Le patrimoine informatique immatériel, c'est pas moi qui ai trouvé le nom. Par contre, c'est un de nos grands amis, Hans Pufal, qui a beaucoup travaillé pour Aconit, qui a trouvé le sous-titre. Que serait un violon sans partition? Que serait un ordinateur sans logiciel? Alors, je précise bien que je vais parler du logiciel. Il y a d'autres patrimoines immatériels en informatique. Il y a tous les témoignages aussi. Mais ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sur le logiciel. Bon, quand on parle de patrimoine informatique, les anciens pensent aux grands ordinateurs, les jeunes pensent aux mini TO7, les techniciens cherchent la documentation, les gestionnaires se demandent où est-ce qu'ils vont loger toutes ces machines, hein, à Lausanne comme chez nous. Par contre, ce qui reste pour nous un problème pour lequel je ne vais pas vous proposer de solution, mais je vais vous poser des questions, c'est la sauvegarde de ce patrimoine immatériel qu'est le logiciel. Le patrimoine logiciel, il a quelques similitudes avec le patrimoine musical. On sait l'écrire, on sait l'enregistrer, on sait le jouer, mais il est extrêmement fragile. Alors vraiment fragile à un point que je ne me rendais même pas compte avant d'arriver à Aconit. Et puis, ma dernière phrase, comme les musiques expérimentales, il y a un problème, c'est qu'il n'y a que des petits cercles d'initiés qui sont capables de juger de la beauté d'un logiciel. Je ne vais pas m'attarder sur ce transparent, sur la conservation des logiciels. C'est assez désespérant. Les chiffres que je donne à certains vont paraître pessimistes, à d'autres vont paraître optimistes. C'est pourtant à peu près la réalité. C'est sûr que vous trouverez toujours des exemples de bandes magnétiques qui ont 10 ans qu'on sait relire, mais au-delà de 5 ans, ça devient très problématique. Et normalement, c'est 2 ans la limite. Au bout de 2 ans, une bande magnétique devait être réécrite. Les CD, vous allez me dire que les CD de musique que vous avez, ils sont bons. Mais alors, un CD de musique, il y a un petit problème, c'est que quand même quand il y a des trous, vous pouvez ne pas vous en apercevoir à l'audition. Par contre, si c'est un programme, ça ne marchera plus. Un CD, 5 ans, c'est vraiment le grand maximum pour un CD que vous avez enregistré vous-même sur votre ordinateur personnel. S'il est enregistré en usine, il tiendra plus longtemps. Les rubans et les cartes perforées, ça tient plus longtemps. Vous voyez, même un bout de ruban perforé que j'ai chiffonné dans ma poche hier, bon, ma foi, on sait encore le relire. Puis s'il est déchiré, on met un scotch et on repart. Ce qui tient le mieux, c'est les listings papier. Sauf que, si c'est du laser, on ne sait pas bien combien de temps, les photocopies ne durent pas très très longtemps. Si c'est de l'encre d'impression, ça dure beaucoup plus longtemps, mais combien de temps se conservent nos papiers actuels? Vous savez que tous nos papiers sont acidifiés, bon, ça limite aussi la durée de vie. Bon, aujourd'hui, pour un logiciel, le binaire de ce logiciel, la seule solution qui soit vraiment active et efficace actuellement, c'est l'archivage dynamique. C'est-à-dire qu'on a des piles de disques, sur lequel on écrit, tous les disques sont doublés et ils sont autocontrôlés. C'est la seule solution aujourd'hui pour conserver avec sécurité des logiciels. Bon, je me suis trop attardé. Quelle mise en valeur peut-on faire pour un logiciel? Alors, nous allons distinguer trois cas. Le simple visiteur, je n'ai pas voulu écrire le visiteur lambda, mais c'est bien l'idée. Le technicien averti, celui qui a un certain bagage scientifique, et puis le connaisseur, qui est programmeur et qui sait ce que c'est qu'un logiciel. Alors, avant d'attaquer les trois cas, juste un petit mot sur... Je vais parler de démonstration. Qui dit démonstration suppose qu'il y a une machine sur laquelle le logiciel tourne. Or, il est certain que toutes nos machines vont progressivement s'éteindre les unes après les autres. Du coup, il faut déjà commencer à penser à disposer de simulateurs. Ces simulateurs peuvent être des simulateurs logiciels qui peuvent être mis en ligne sur Internet, mais ça peut aussi être, et c'est une piste sur laquelle notre ami Hans Büffal tenait beaucoup, ça peut être des simulations matérielles avec des machines, comme nous disions ce matin, des artefacts de machines anciennes créées avec des circuits modernes, mais qui tournent de la même façon et au même rythme que les machines anciennes. Donc là, il y a une piste à travailler. Alors, revenons à nos trois personnes. Pour un visiteur qui ne connaît rien de particulier au logiciel que nous amenons dans nos locaux, qu'est-ce qu'on peut lui présenter? On peut lui présenter les machines, mais au point de vue des logiciels, qu'est-ce qu'on peut lui présenter? On peut lui présenter des démonstrations passives, c'est-à-dire on lui montre des affichages, on peut lui montrer des affichages graphiques à différentes époques, qui voient l'époque où tout s'imprimait sur du papier, l'époque où on avait des écrans avec des gros pixels et où on faisait des petits carrés, les quelques rares machines qui travaillaient en vectoriel et qui faisaient des beaux traits fins en diagonale. Et puis, on peut présenter des démonstrations actives, c'est-à-dire que là, je pense que le rétro-gaming, les jeux, peuvent être une piste intéressante. Nous l'avions fait une année pour la fête de la science Place Victor Hugo. Il y avait une série de machines qui présentaient toutes des jeux, les gens pouvaient jouer avec, mais elles étaient soigneusement classées. Il y avait l'affichage en deux dimensions, en gros carrés. Il y avait l'affichage deux dimensions avec des aplats de couleurs, des formes fines, et il y avait à la fin les démonstrations en 3D. Là, on peut faire prendre conscience à un visiteur de l'évolution des logiciels dans le temps. Évolution des logiciels et évolution des matériels, bien sûr. On peut leur montrer les outils de travail anciens. Qu'est-ce que c'était que la bureautique dans le temps? En particulier, comment était le premier tableur, le célèbre VisiCalc, qui a permis aux machines, aux Apple II, de rentrer dans les bureaux, parce que tout le monde voulait utiliser VisiCalc, donc il fallait que les patrons achètent un Apple II. Si on monte au niveau du technicien, quelqu'un qui a un certain bagage scientifique, qui s'intéresse sans être un spécialiste, on peut lui parler des systèmes d'exploitation, lui montrer comment on pilotait un ordinateur jadis en mode question-réponse avec des logiciels comme MS-DOS ou avec Unix. C'est extrêmement troublant pour un visiteur d'aujourd'hui quand on le met devant un ordinateur qui fait 6 mètres de long avec un superbe bureau en tech devant et au centre il y a une machine à écrire. Dit, c'est avec la machine à écrire qu'on commandait l'ordinateur. Alors, il dit oui, mais où était la visu? Il n'y avait pas de visu. Ça se commandait à la machine à écrire. On peut montrer à ce même visiteur les débuts du tout graphique. Donc sur les machines Xerox qui ont servi de modèle ensuite pour tous les Mac, montrer comment étaient les premiers affichages avec des fenêtres, montrer comment les premiers Mac affichaient. On peut-être aussi, je pense, parler à des des gens qui ont un petit peu de bagage scientifique, de quelques langages évolués, leur montrer comment une équation du second degré se résout avec une subroutine Fortran. C'est à la mesure de quelqu'un qui a un minimum de connaissances scientifiques. Lui montrer la différence avec l'allure d'un programme Algol, sans rentrer dans les grands détails, mais ça a quand même été une révolution par rapport au Fortran. Lui montrer quelle était la piste bizarre qu'avait choisi le langage COBOL, qui est, je pense, toujours utilisé en programmation commerciale. Quand on arrive au connaisseur, donc quelqu'un qui est programmeur, qui a une expérience, qui sait rentrer dans un code, je pense qu'il faut rentrer dans le code des programmes. Parce que la beauté d'un logiciel, c'est la façon dont il est conçu. On retrouve dans un programme, à l'intérieur d'une équipe de programmation, en général, les programmeurs sont capables de reconnaître si un module a été programmé par un tel ou par un tel. Hein, il y a une partie de la tournure d'esprit des gens qui apparaît dans leur façon de programmer. Là, moi, ça m'amuserait beaucoup de présenter à des gens qui ont des notions de programmation un peu les langages spéciaux, le langage APL, le langage Lisp, qui ont été des merveilles en leur temps, puis qui ensuite ont été très oubliés. On peut aussi leur rentrer un peu avec eux dans les systèmes des bases de données, les fameuses bases de données qui nous servent pour nos inventaires, qui servent même dans tous les sites web aujourd'hui. Et puis là, il y a une chose sur laquelle on tombe tout de suite. Vous voyez, je suis de plus en plus, je dirais, dans le papier maintenant, dans la présentation. Il y a l'importance de la documentation. Nous avons dans nos bibliothèques un certain nombre de documents anciens. Donc pour quelqu'un qui veut vraiment s'intéresser à la façon dont ont été faits les logiciels, il faut qu'il rentre un peu dans les livres, dans les listings. Et je crois que ça va être très sensiblement ma conclusion. On ne dira jamais assez, je crois, qu'un logiciel n'est vraiment sauvé que si on dispose de trois choses. Son support exécutable, le code source, c'est-à-dire les instructions avant compilation. Bon, j'espère que je ne suis pas trop en train de vous perdre. Un programme, on commence par écrire un langage, il se lit à la main, et ensuite il y a un programme qui transforme ça en programme exécutable. C'est deux niveaux, il y a le support exécutable qui tourne sur une machine, il y a le code source qui est ce que le programmeur a écrit et la documentation qui va avec. Et en fait, si on n'a pas ces trois éléments-là, on garde une vue extrêmement superficielle du logiciel. Bon, il faut dire qu'à Aconit, nous avons un cas qui est où nous avons la totalité, ce qui nous a permis de faire travailler un stagiaire sur ce logiciel, de le remettre en route, de faire des mesures dessus. Il y a quelques programmes pour lesquels, en faisant un effort et en prenant du temps, on arriverait à reconstituer ces trois niveaux. Et puis, sinon, il y a des paquets de cartes qu'on peut essayer de relire, essayer de comprendre, mais il y a honnêtement, là, devant les logiciels, on est quand même très en retard sur la valorisation et sur la conservation. Et je crois, je dis « on », je ne pense pas particulièrement à Aconit, mais je pense pratiquement dans le monde entier. Il y a quand même une voie d'espoir. Ce sont des Américains, essentiellement, qui ont créé des sites sur lesquels ils recueillent tous les logiciels qu'ils peuvent trouver et ils les mettent à la disposition publique. Il y a également un certain nombre de programmeurs qui ont écrit des simulateurs. Mais finalement, c'est un monde de techniciens qui travaillent de son côté et qui n'est pas en liaison avec le monde des musées de l'informatique au sens large. Et là, je pense qu'il y a aussi des liaisons, des ponts qu'il faudrait établir. Bon, je crois que
ton temps est
je m'arrête.
Épuisé. Merci.